Dominique Ponneau, nous voyons tous. Certains parmi nous savent voir. Et je crois, Dominique Ponneau, que c'est votre grâce de savoir voir. Et vous savez retranscrire ce que vous voyez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et comment vous pouvez nous aider à mieux voir?
Oh, je pourrais peut-être, ma sœur, commencer par vous dire à qui je dois, entre autres, peut-être une certaine capacité à voir et peut-être à faire voir, puisque vous le dites. Il y a eu plusieurs personnes, et plusieurs occasions, mais plusieurs personnes qui m'ont appris à voir. Mais en particulier, il y a eu une aveugle qui, à l'époque, on avait entre 70 et 80, elle était devenue aveugle subitement pendant la guerre. Elle était en Algérie et il n'y avait pas les médicaments qui auraient pu lui sauver la vue. Donc, quelques jours, elle a perdu la vue, complètement. Donc, moment très dur, qu'elle a vécu, d'ailleurs, elle le disait, douloureusement. Comme c'était une femme extrêmement vivace, la joie l'a emportée sur la souffrance, et le jour sur la nuit, en elle. Et elle avait été passionnée de peinture. Elle aimait beaucoup, beaucoup la peinture et les arts visuels, comme on ne disait pas encore. Et elle avait un sens extraordinaire de sentir, de percevoir ce qui relevait du monde extérieur. Par exemple, nous avions l'habitude, tous les mercredis matin, de nous retrouver ensemble. J'allais la chercher, puis nous faisions ensemble la distance qui restait, la chapelle de la rue du Bac. Et elle m'attendait à 7h30 pour que nous soyons dans l'église à 8h15, moment d'ouverture de l'église. Et elle me disait, elle m'attendait, elle me disait, « Toi, tu ne vas pas bien aujourd'hui. Rien qu'à reconnaître mon pas. » Ou bien, « Ah, oh, tu as l'air joyeux. » Alors, vous me parlez de voir, je vous parle d'entendre. Mais tout se rejoint. Notre amitié fut et demeure, même si elle est morte maintenant, profonde, grande. Et lorsque nous étions invités, il nous arrivait d'être invités ensemble, dans des endroits amicaux, elle me disait, « Décris-moi cet intérieur. » Alors, je lui disais, « Ici, le salon, ici... » Ah, elle me disait, « Mais comment est-ce ? Décris-moi, où se trouvent les fauteuils, le canapé, et qu'est-ce qu'il y a sur les murs ?» Alors, je lui disais... Elle me forçait toujours à aller plus loin. Et elle prenait mon doigt, plutôt me demandait de prendre le sien. Et par exemple, s'il s'agissait d'un tableau, je conduisais son doigt autour du tableau pour qu'elle puisse bien percevoir les dimensions. Et elle me disait, qu'est-ce que cela représente ? Je lui disais ce que, à mes yeux, cela représentait. Quelles étaient les couleurs ? Quelles étaient les valeurs ? Quels étaient les rapports entre tout cela ? Et elle n'avait de cesse que je ne me sois mis à préciser les choses. Mais c'est trop vague ce que tu me dis. Sois plus précis. Dis-moi. J'essayais, tout en hésitant, parce qu'on hésite beaucoup en ces matières, j'essayais d'être le moins éloigné possible de la réalité que je percevais. Et du coup, il m'arrivait de la percevoir mieux, peut-être plus intensément, plus précisément que je ne l'aurais fait si cette amie Denise n'avait pas été là pour me titiller. Quand elle était contente d'une manière d'exprimer les choses, elle m'en félicitait aussi. Mais elle m'aimait beaucoup et la réciproque était bien vraie. Son rôle sur ce point par rapport à moi était beaucoup plus celui de l'interrogation exigeante et aimante que celui de la satisfaction. Mais elle m'a aidé beaucoup. Elle m'a aidé à ne pas me contenter trop facilement de choses vagues. Et ainsi, me semble-t-il, grâce à elle, mon regard s'est aiguisé.
Votre regard s'est aiguisé et aussi votre expression s'est clarifiée.
Oui, exactement. Et je le dois à une amie aveugle.
Étonnant, on dit aussi de vous, Dominique Ponneau, que vous ne dissociez pas la beauté de l'amour.
En effet, en précisant qu'il y a beaucoup de formes d'amour et que l'on peut aimer dans la gloire d'un soleil levant ou d'un soleil couchant, comme on peut aimer aussi dans la nuit et la souffrance. Sans me faire l'apologète de la souffrance, j'oserais dire que parfois la souffrance est une bonne éducatrice, à condition qu'elle ne soit pas trop
envahissante,
qu'elle ne prenne pas toute la place, qu'elle ne rende pas la personne esclave, parce que si c'est le cas, il est vain de parler de salut, de rédemption par la souffrance, et c'est même révoltant. Mais s'il reste un peu d'espace dans la souffrance pour un petit cheminement, un petit ruisseau de joie, alors on est heureux et on partage le bonheur. En effet, vous savez, ce qui me paraît beau, en tout cas, même dans des scènes très dures, comme par exemple celle du retable d'Isenheim, ou bien du portement de croix de Jérôme Bosch, on peut, si on sait bien regarder, trouver non seulement la joie, mais un partage d'amour. Par exemple, si je ne connais pas d'illustration plus merveilleuse de ce que je viens d'oser avancer que le portement de croix de Jérôme Bosch, qui est une œuvre au premier abord insupportable. Insupportable, c'est toute la hideur de la haine humaine est là, autour du Christ, lequel est au milieu. Il n'a même pas la possibilité de monter au Golgotha, parce que tout le monde en empêcherait. Mais il se trouve que ce Christ, aux yeux clos, a un sourire dont on sent bien qu'il a été torturé, qu'il va l'être encore, on le sait. Ce Christ aux yeux clos a un visage apaisé. Pourquoi ? Parce que l'instant d'avant, une femme, que la tradition appelle Véronique, et une femme dont on dit au demeurant qu'elle était, dans la tradition aussi, l'hémorroïs, l'ancienne hémorroïs, donc la femme, entre guillemets, impure, qui avait touché la frange du manteau du Christ, elle vient de venir purifier le visage tuméfié et plein de sueur du Christ. Elle l'a apaisé d'un regard, du linge qu'elle a mis sur son visage, mais aussi de son regard aimant. Et le Christ a ouvert les yeux aussi dans cet océan de haine sur non seulement la fraîcheur de ce linge que la femme lui tend, mais sur le caractère aimant de son regard. Et désormais, ils peuvent l'un et l'autre fermer les yeux, ce qu'ils font dans le tableau. On sait bien que l'instant d'avant, ils les ont ouverts et qu'ils sont ensemble à jamais. Or, cela se produit dans une œuvre qui, si vous la regardez, au premier instant est insupportable. Mais ce ruisseau de l'amour, de la beauté dans l'amour, a commencé à couler au moment où ils se sont rencontrés.
Est-ce que je peux vous demander, Dominique Ponneau, quel est, parmi tous les tableaux que vous connaissez, celui qui vous fait prier ?
Curieusement, voyez-vous, les œuvres qui me rejoignent le plus aisément, le plus naturellement dans la prière sont surtout des œuvres poétiques. C'est-à-dire à la fois matérielles, bien sûr, il y a des mots, il y a des sons, même si on ne les entend pas, et c'est immatériel aussi. Et souvent, je me remémore un des vers les plus beaux de la poésie française, c'est le mot d'Hippolyte à Thésée. « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. » Et vous savez, que l'on puisse dire cela en vérité. Et la poésie ne trompe pas. Et on sait que la personne qui dit cela, « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur », est vraiment un être pur qui, avec nous, peut partager. Peut-être un fond de pureté qui existerait en chacun de nous, mais peut-être parfois à l'état de nostalgie ou d'espérance, ou les deux en même temps. Alors quant au tableau, alors ce qui me vient à l'esprit maintenant, je vous dirais volontiers, ce serait certaines œuvres de Velázquez. Par exemple, la moire de certaines robes d'infantes, on les touche presque. Je dirais qu'elles sont très sensuelles, dans un sens très pur aussi. Et on s'émerveille de ce que de telles œuvres aient surgi du fond du cœur d'un peintre, de son pinceau, avant qu'il ait peint ses robes d'infantes. Mais il n'y avait rien de ce que je suis en train de dire. Et là, on touche, je crois, on aborde, sans trop toucher, j'espère, le mystère de la création humaine. Avant telle robe d'infante de Velázquez, c'était tout simplement inimaginable. Or, depuis que c'est là, elles expriment un mystère. Elles appartiennent, en quelque sorte, à leur façon, à ce mystère de l'incarnation auquel les chrétiens sont si fondamentalement attachés et qui est pour eux la touche de la présence de Dieu. Infiniment au-dessus de ce monde, mais au cœur de ce monde.
Vous avez écrit, Dominique Ponneau, un livre qui s'appelle « Célébration de la gratitude ». Je dois vous dire que quand on vous écoute, on est déjà dans cette célébration de la gratitude. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre dans ce livre ?
Certainement m'a habité le désir d'habiter la grâce qui m'était faite et qui est faite à beaucoup de personnes, de remercier. J'ai voulu non seulement rendre grâce, mais inviter à percevoir que beaucoup plus encore qu'il n'y a lieu de pleurer ou de désespérer, il n'en demeure pas moins que les raisons que l'on a en profondeur, tout simplement parce que l'on vit, parce que même si l'on n'a plus Dieu, on peut quand même avoir un regard et le partager. Il y a lieu de dire merci, même si on ne sait pas à qui on dit merci. Et pour le coup, c'est une célébration. Je pense à l'instant, à la première sentence que l'on voit lorsque l'on arrive au musée municipal de Saint-Denis, qui fut un Carmel, où est morte Madame Louise, la dernière fille de Louis XV, en religion sœur Thérèse de Saint-Augustin. Elle est morte en 1787, elle était entrée au Carmel en 1770. On est accueilli donc par les sentences du Carmel. La première est celle-ci. « Chaque jour du juste est un grand jour de fête, saint et solennel. » Alors cela mérite d'être célébré aussi, je crois.